Bien, donc, merci d'être présent. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Donc, voilà, on va commencer. Donc, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, au jour d'aujourd'hui, je vais consacrer une partie de la séance à revenir sur cette comparaison qui est un peu historique, hein, qui consiste à rapprocher terme à terme certains aspects de la pensée politique de deux personnalités qui ont marqué le XVIIe siècle anglais. Et il ne s'agit pas ici, évidemment, de faire une comparaison pour l'érudition, mais à partir de ces éléments de la comparaison, de mettre en évidence un certain nombre de points par rapport à la question de la problématique qui est la mienne, à savoir que c'est en observant comment on comprend ce qu'est une famille qu'on peut, par transition, se poser la question de savoir comment on pense ou on se représente les rapports entre les sexes. Alors, pour pouvoir établir convenablement cette comparaison, je voudrais quand même, parce que l'importance des questions qui m'ont été posées la semaine dernière m'incite un petit peu à revenir sur un certain nombre de points que j'ai pu développer. Vous allez voir que je les reformule un peu différemment. C'est aussi normal puisque j'introduis mon propos d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il est important quand même que je fasse une série de clarifications pour éviter un certain nombre de contresens ou un certain nombre de malentendus qui pourraient être à l'origine de ce que je dis. Comme je vous l'ai indiqué, mon propos ici, c'est évidemment de comprendre, de savoir, et le titre que j'avais choisi pour présenter ce cycle de cours était un petit peu provocateur, était de savoir si on pouvait parler d'une morale féminine. Évidemment, il s'agit ici de quelque chose qui va se démarquer d'un modèle dominant, d'un modèle qui est quand même assez général, qui est porté par une représentation libérale de l'individu et de l'individualisme. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Simplement, pourquoi ici aborder la question du féminisme par le prisme de la morale et de la politique? Parce qu'il me semble que c'est un point de vue assez original, ça n'est pas moi qui le revendique comme tel, mais disons que la fréquentation de la littérature sur ce sujet me permet de dire que c'est un point de vue qui est relativement original et qui est assez peu connu en France. Et il m'a semblé que c'était utile de partir de là pour essayer de reposer une question qui est somme toute une question politique majeure, hein, qui est celle de l'égalité entre les sexes. Mais comme il s'agit là d'un sujet aussi massif, hein, que la justice dans le monde, me semble-t-il, je préfère prendre un biais, et qui est un biais un petit peu original. La deuxième justification, je rappelle un petit peu ce que j'ai dit, mais c'est important, vous allez voir tout de suite pourquoi, c'est de dire que si je vais parler ou si je parle de la morale féminine, et j'aurai l'occasion de dire en quoi elle consiste, puisque je crois que cette fois-ci vous avez pu consulter la bibliographie sur le site, les références se trouvent indiquées. Je vais essentiellement parler à partir de la semaine prochaine et dans 15 jours de Carole Gilligan. Eh bien, cette morale féminine, elle se détache en quelque sorte. Elle apparaît effectivement distincte, et ça n'est pas une construction de l'esprit, de ce qu'on pourrait appeler une morale masculine, entre guillemets, ou en tout cas une morale de l'individu. Or, évidemment, cette question de la conduite morale, elle présuppose un certain nombre de contraintes préalables ou de conditions préalables qui sont, elles, non pas d'origine morale, mais essentiellement politiques. Autrement dit, réfléchir à l'existence d'une morale spécifique pour les femmes, c'est évidemment reposer autrement la question du lien avec la politique. Et c'est évidemment sur ce point précis de la politique et encore plus précisément sur l'angle de l'égalité possible, pensable ou effective ou non, entre les hommes et les femmes, que va se situer très précisément un des enjeux de mon propos. Comme vous le voyez, parler de la morale, c'est parler politique. Et parler politique, non pas en un sens commun, mais en un sens très précis, qu'est-ce que être moralement légitime dans une société qui revendique l'inégalité? Donc, on voit bien ici que la condition d'égalité, qui est une condition politique, hein, qui règle en quelque sorte le pouvoir vivre ensemble, la coexistence pacifique, est une condition préalable à l'expression d'une dimension morale de la conduite, qu'elle soit des hommes ou des femmes. Donc, voyez-vous ici, ce qui m'importe que vous compreniez bien, c'est que réfléchir à la question de la morale, ça n'est pas abandonner la question politique. Autre point sur lequel je voudrais revenir, et qui, me semble-t-il, est un point tout à fait décisif, et sur lequel je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, c'est que le lien entre la politique et la morale, je le fais à partir d'un point précis qui est celui du rapport qui existe entre la société et la famille, ou entre la famille et la société. Autrement dit, ainsi que le dit de façon extrêmement convaincante une autre grande féministe américaine qui s'appelle Suzanne Moller-Hockin, dont je donnais les références en bibliographie, comprendre comment peut se déployer la moralité des conduites dans l'espace de vie suppose que l'on comprenne comment les choses se passent dans la famille. Autrement dit, ce qui advient dans l'espace de la vie privée, des relations interpersonnelles à l'intérieur de la famille, est susceptible d'avoir des conséquences sur ce qui se passe dans les relations sociales, en dehors de la famille, ou encore, pour utiliser une autre formule qui est tout à fait explicite et sur laquelle je n'ai pas suffisamment insisté la semaine dernière, l'espace public. Au fond, raisonner sur le lien entre la famille et la société, c'est également raisonner sur l'articulation entre espace de la vie privée et espace de la vie publique. Et il me semble, sur ce point, que la liaison entre les deux est tellement importante, elle est tellement importante que nous avons des tas d'exemples historiques qui montrent négativement l'importance de cette relation. Et comme ça, il me vient un exemple que vous connaissez tous. Hein, si vous reprenez le grand texte de George Orwell, 1984, vous ressaisissez tous les passages qui concernent la description des modes de vie des couples à l'intérieur des espaces privés. Vous avez des caméras et vous avez ce leitmotiv qui revient en permanence, « Big Brother's watching you ». Donc, c'est le système de la surveillance systématisée qui vise à contrôler l'espace de la vie privée, parce que tout simplement, ce qui se passe dans l'espace de la vie privée est déterminant pour ce qui se passe aussi dans l'espace de la vie publique. Et que contrôler la sphère de la vie privée, c'est évidemment conditionner les relations sociales dans l'espace de la vie publique. Alors, on pourrait multiplier les exemples à l'infini, parce que, évidemment, il n'y a pas simplement le système de George Orwell. Tous les historiens du nazisme et du fascisme ont montré, et tous les historiens des grands systèmes totalitaires ont montré, que l'ambition politique de ces régimes, c'était justement de contrôler l'espace de la vie privée. Donc, négativement, on voit bien ici que ce qui se passe à l'intérieur de la vie privée est absolument décisif. On peut donc comprendre que ça ne vaille pas simplement pour la liberté de l'individu en général, mais que ça vaut également pour la question de l'égalité entre les sexes, à l'intérieur de la sphère de la vie privée, comme à l'extérieur. Ce qui veut donc dire que si je choisis de relier de manière aussi systématique le problème que je traite avec le rapport entre famille et société, c'est parce que ce qui advient dans la famille est, à mon avis, enfin ça n'est pas mon avis, disons, est reconnu comme étant un moment tout à fait décisif, hein, de la construction à la fois des inégalités réelles, hein, qui sont sociales, culturelles, mais entre les genres, évidemment, et des inégalités en termes de représentation. Parce que, évidemment, ce qui est important ici, c'est de bien comprendre, et je vais y revenir dans un instant à propos d'autres questions qui m'ont été posées, que ce problème de l'inégalité dans les rapports entre hommes et femmes, il n'est pas simplement porté par les différences objectives, mais il est entretenu, hein, il est en quelque sorte déployé dans l'espace des représentations sociales, hein, comme s'il était redoublé en quelque sorte dans l'espace des représentations sociales et symboliques. Donc, d'une certaine façon, c'est bien parce que l'espace de la vie privée est un lieu tout à fait décisif de production et de reproduction des inégalités ou des égalités qu'il importe de s'interroger sur ce lien entre public et privé. Alors, je dois dire ici que mon propos n'est absolument pas original et que lorsqu'on regarde un petit peu la littérature dans le domaine, une des grandes lignes argumentatives retenues par les féministes historiques, ça a été toujours de réfléchir sur cette question du rapport entre public et privé. Comme quoi, voyez-vous, cette question tout à fait anodine, comme ça, en première lecture, se révèle politiquement et théoriquement décisive pour comprendre comment se constitue, se pérennise ou se déploie les formes sociales de l'inégalité. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, en dehors de la question du lien famille-société, sur lequel je vais m'apesantir aujourd'hui avec mes deux auteurs, c'est quand même un point qui est ressorti dans plusieurs questions et qui peut-être réfracte de ma part une insuffisante clarification. C'est ce problème du rapport entre la nature et la société pour comprendre un petit peu la question que je pose. Alors, je crois que beaucoup de questions qui m'ont été posées, beaucoup de remarques qui m'ont été faites, pourraient se résumer de cette façon. Alors, évidemment, il s'agit d'un résumé un peu abrupt, mais qui va me permettre de rebondir là-dessus. Au fond, on a beau vouloir revendiquer l'égalité entre les sexes, quand on est femme et qu'on enfante, quand on est femme et qu'on accouche, quand on est femme et qu'on élève, eh bien, il y a quelque chose de tellement particulier, de tellement spécifique, qu'on ne peut pas le nier. Alors, ces remarques parfaitement pertinentes laissent entendre qu'il n'est pas possible de nier, et à juste titre, la différence de nature entre hommes et femmes, et que, de fait, l'observation est là pour le montrer, l'expérience de la grossesse, de la mise au monde, eh bien, sont des expériences qui sont essentiellement féminines. Alors, je voudrais quand même apporter quelques précisions pour bien vous faire comprendre quel est le point de vue dans lequel je me situe. D'abord, évidemment, cette remarque ou ces remarques laissent entendre qu'il y a un moment où la revendication d'égalité, elle bute contre quelque chose qui serait de l'ordre d'une évidence massive, d'un constat proprement indiscutable. Il y a le fait brut de la nature. Et la nature, eh bien, ce qui la caractérise, c'est d'abord qu'elle est évidemment homogène et qu'elle se présente de la même manière pour tous. Or, il me semble que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut envisager les choses. Et la question que je vais me poser devant vous pour essayer de clarifier ce point, c'est donc la suivante. Qu'en est-il du statut de la nature lorsqu'on s'interroge sur les différences entre les hommes et les femmes? Alors, première remarque, tout de suite, elle est importante. Revendiquer l'égalité entre les hommes et les femmes, ça n'est pas du tout nier les différences. Ce n'est pas parce que je revendique politiquement ou que j'essaie de justifier théoriquement la nécessité d'égalité entre les hommes et les femmes, que je nie ou que j'évacue les distinctions, les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas confondre ici la revendication politique d'égalité et l'existence de différences. Alors, l'égalité, elle ne veut pas dire identité. L'égalité, elle ne veut pas dire négation des différences. Qu'est-ce qu'elle veut dire, l'égalité? Eh bien, elle veut dire quelque chose de positif. Il ne s'agit pas de construire des clones sociaux. Il ne s'agit pas de se représenter un monde où les éléments seraient parfaitement interchangeables et où il n'y aurait aucune différence. J'irai même plus loin en disant que c'est à partir de cette condition d'égalité qu'il est possible de reconnaître les différences entre les êtres humains, et notamment les différences entre les hommes et les femmes. Ce qui veut donc dire que, loin de nier le statut de la différence, et notamment, je vais y revenir dans un instant, sur ces questions d'expérience, hein, l'expérience de la grossesse, l'expérience de l'accouchement, l'expérience de l'enfantement, l'expérience de l'éducation, du « mothering », comme disent les Anglais. Tout ça, il ne s'agit pas de le nier, il s'agit au contraire de le reconnaître. Mais la condition de possibilité de la reconnaissance, elle repose sur un axiome politique qui est celui de l'égalité entre les êtres humains. Et sans cette égalité, eh bien, cette différence, elle devient un vecteur d'infériorisation ou de supériorisation ou de domination, excusez-moi pour ce barbarisme absolument insupportable. Donc, la seule manière de reconnaître la différence en tant qu'elle est une différence, sans la poser comme un facteur d'inégalité ou d'infériorisation ou de domination, c'est évidemment qu'elle s'exprime, cette différence, dans un contexte d'égalité. Donc, ça serait le premier élément de réponse que je voudrais donner, et il me semble qu'il est absolument décisif. Mais il y a un deuxième élément de réponse que je voudrais donner. Et là, vous allez voir qu'il me conduit à introduire un peu plus de complexité dans la manière qu'on a de poser le statut de la nature. Quand on parle des différences entre les hommes et les femmes, que désignons-nous précisément? De quoi parlons-nous? Alors, évidemment, c'est un exemple qui m'a été choisi et qui m'a été dit, et je le comprends, il est massif, hein, et évidemment, je dois répondre aussi à cette forme de constatation qui est absolument essentielle. L'expérience propre de la grossesse, de l'accouchement ou de l'avortement, on verra d'ailleurs que sur ce plan, les considérations de Carol Gilligan sont extrêmement subtiles sur cette expérience, qui est une expérience des femmes. En tout cas, qui est au départ une expérience des femmes. Eh bien, cette expérience, si on la confronte à partir d'un regard historique ou à partir d'un regard d'ethnologie comparée, on se rend compte qu'elle est susceptible d'une variabilité dans sa forme, dans son intensité, dans la place qu'elle occupe dans la société, qui fait que même ce qui peut se poser dans une représentation immédiate, spontanée, comme quelque chose d'essentiellement naturel et subjectif, propre à un genre, se manifeste en fait comme étant investi par des représentations sociales, par des formes d'inculcation, par des formes d'éducation, par des déterminations qui sont tout sauf de la nature. Alors, évidemment ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous pouvons appeler, nous, très spontanément, expérience naturelle ou confrontation avec une forme de nature, se trouve à la réflexion quand on compare ces éléments avec l'histoire. Alors, vous avez notamment un historien, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références, je ferai comme la semaine dernière, Pierre Vigarello, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui a beaucoup travaillé sur la naissance dans la société d'Ancien Régime, la France d'Ancien Régime, et qui s'intéresse notamment, du point de vue de l'histoire des mentalités, à tout le rituel, à la manière dont se place socialement et l'acte même, hein, dans le dispositif, hein, dans le cursus, dans le cours de vie des femmes, comment se place le moment de la naissance. Les historiens démographes ont montré notamment que dans la France d'Ancien Régime, où le contrôle de la naissance était généralement médiatisé par des formes de régulation brutale, hein, naturelle, hein, des accouchements sans suite, des avortements, des techniques abortives extrêmement violentes qui nous surprennent et qui nous choquent et qui, à cette époque-là, étaient quelque chose de tout à fait ordinaire. Autrement dit, le rapport, ici, à l'expérience de la nature est un rapport qui est déterminé lui-même par une sorte de représentation ou d'ensemble de représentations, qui fait qu'on ne peut pas parler, même à propos de ces expériences aussi radicales, qui impliquent le corps, on ne peut pas parler simplement d'une expérience ou d'un contact direct avec la nature. Au fond, la nature ici se trouve en quelque sorte réinvestie dans une histoire, dans une symbolique. Et il n'y a pas de représentation naturelle de la nature. Il n'y a que des manières sociales, culturelles, de se représenter ce qu'est la nature. Et sur ce plan, j'en profite pour enfoncer un clou un tout petit peu différent, mais qui, à mon avis, va dans le même sens. Hein, vous savez, cette espèce de revival auquel on assiste, qui accompagne le moralisme ambiant autour de l'authenticité des produits biologiques authentiques, de la culture authentique, de l'écologie authentique, de la nature authentique, enfin bref, tout cette espèce de discours extrêmement diffus, qui est d'ailleurs tout à fait normalement l'occasion de pratiques nouvelles, ça je n'en disconviens pas, mais qui en tout cas pourrait se comprendre et s'interpréter à l'aune de ces représentations nouvelles de la nature et de ce qui dans la nature est bon ou mauvais, parce qu'on en revient quand même toujours un peu là, et que derrière le jugement normatif, eh bien on trouve la politique et la morale comme toujours. Hein. Après tout, comme disait Sarkozy, ceux qui n'aiment pas la France ont qu'à la quitter. Et c'est une manière assez violente de résumer l'énoncé, en tout cas sa conception du rapport l'identité. Je ferme la parenthèse et je reviens à mon propos. De la même manière, on m'a dit, dans certaines remarques, et je crois que là aussi il faut que je réagisse, en tout cas que je précise mon propos, oui, mais finalement, quand on y réfléchit bien, l'homme est quand même plus fort que la femme. Certes. Non, mais je schématise délibérément, j'ai un propos provocateur, mais ça me permet de revenir sur des points importants. Au fond, quand on réfléchit par exemple à l'expérience de la distribution des fonctions et du travail dans cette période atroce qu'a été la révolution culturelle de Mao, eh bien je peux vous dire que la question de savoir si les femmes étaient plus fragiles que les hommes ou si les femmes étaient moins fortes que les hommes est une question qui politiquement ne se posait pas. Et je joue le paradoxe jusqu'au bout, ceci pour dire qu'au fond, je crois que même sur ce plan, la question de du dimorphisme anthropologique, de la différence de forme biologique entre l'homme et la femme, est une question qui peut historiquement être fortement relativisée. Autrement dit, on voit bien ici aussi que dans ce cas historique, il y en aurait bien d'autres, il y a une sorte de redéfinition culturelle du clivage supposé naturel entre l'homme et la femme. Enfin, dernier exemple que je choisirai pour appuyer encore cette argumentation que j'ai indiquée rapidement, mais sur lequel peut-être est-il nécessaire de revenir un instant. Les ethnologues nous ont montré depuis longtemps comment le mode de vie, l'histoire entre guillemets de certaines sociétés avait un impact extrêmement important sur la manière de percevoir le monde. J'avais cité Marcel Mauss et les technologies, les techniques du corps, qui s'intéressent aux positions du sommeil. Voilà un très très bel objet. Comparer les sociétés à travers la manière dont elles organisent le repos. Eh bien, on peut être surpris parce qu'il y a des sociétés où les gens dorment debout. Tout de même qu'il y a des sociétés, et vous le savez aussi bien que moi, où la position accroupie est la position naturelle. Eh bien, si vous vous mettez accroupi et si vous restez 5 minutes accroupi, eh bien, moi, je vous tire mon chapeau. C'est simplement pour dire, ceci pour dire quoi ? Ceci pour dire que la détermination naturelle du corps, elle est l'objet d'un travail culturel extrêmement important. Et donc, la limite entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société est extrêmement difficile à saisir. Et qu'il faut toujours se méfier des raisonnements un peu simplistes qui ont tendance à poser l'existence d'une séparation nette là où, finalement, la comparaison, l'histoire, l'ethnologie, la sociologie font apparaître des rapports d'implication extrêmement nombreux et divers. Autrement dit, pour revenir à la remarque de départ, ce que je peux dire, c'est que les différences qui sont perçues et vécues par les uns et les autres, les femmes, les hommes, certaines femmes et pas d'autres, certains hommes et pas d'autres, parler de l'expérience vécue, ça n'est pas la même chose que de dire « il y a une différence ». C'est vivre ce qui se représente et qui est une différence, et c'est ce vécu expérientiel qui est absolument décisif. Et c'est là aussi, dans la manière de raconter ou de vivre ou de se représenter son expérience, que la société s'engouffre. Donc, quand il s'agit de dire que l'on fait une expérience spécifique à propos de la grossesse, de la naissance ou autre, je dis absolument oui, mais de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une expérience et nous parlons d'une expérience vécue. Et parler d'une expérience vécue, c'est évidemment renvoyer à des représentations hein, qui sont à la fois subjectives, personnelles, mais aussi au-delà de la subjectivité sociale. Alors, on voit bien ici que tous ces exemples que j'ai choisis, et je m'excuse un peu d'être aussi long sur ce point, mais il me semble absolument important, montrent que l'argument souvent invoqué de la nature est un argument extrêmement délicat. J'irai même jusqu'à dire que parfois, il est un argument mobilisable pour défendre des points de vue qui ne sont pas forcément progressistes. Je terminerai en rappelant, et ensuite je vais aborder la comparaison, je terminerai en rappelant que lorsque je vous ai présenté la semaine dernière l'historique du mot « genre hein, », qui vient d'un moment très particulier dans l'histoire de la psychologie clinique aux États-Unis, eh bien on est là très précisément dans ce moment où on voit bien que le regard porté par la société sur la nature est un regard qui n'est pas simplement celui du spectateur qui contemple à distance le monde, mais c'est un regard qui s'implique dans la nature. Puisque, comme vous le savez, les intersexes ont été pendant très longtemps opérés pour qu'ils deviennent enfin, entre guillemets, conformes à leur nature. Cette question de la conformité à la nature est une question qui est loin d'être évidente et qui suppose dans la question la conclusion. Qu'est-ce que la nature ? Et si la nature a fait que, ou en tout cas, s'il se trouve des individus dont la détermination du sexe n'est pas posée par la nature, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il est possible de transformer ce qui est pour le rendre conforme à l'image que l'on se fait de cette nature ? Voilà. Donc, autant d'éléments pour dire que, et là je terminerai par une sorte de boutade, en évoquant Simone de Beauvoir, c'est-à-dire que cet éternel féminin, ou pour le formuler encore d'une autre manière, Simone de Beauvoir disait très justement, et ça remonte quand même à la fin des années 50, qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et c'est très précisément ici cette distinction entre la naissance et le devenir, c'est-à-dire entre la nature et l'histoire, que se situe le problème du genre. Et je pense que si il faut absolument s'efforcer, sur le plan du raisonnement, à tenir ça dans l'esprit, que la nature est investie et qu'elle est en quelque sorte historicisée. On ne naît pas femme, on le devient. Bien, donc, ces précisions étant posées, j'en viens maintenant à quelques considérations qui vont constituer la deuxième partie de mon intervention d'aujourd'hui. Quelques considérations pour montrer comment, aux origines du libéralisme politique, eh bien, la question de la famille se trouve posée. Alors, je voudrais d'abord faire une première remarque préalable et indiquer que dans les textes que je vais citer, et je vais vous citer des extraits, vous remarquerez que la famille n'est pas forcément un objet directement évoqué, et que mon commentaire va être en quelque sorte de le faire surgir, hein, de le faire apparaître dans les trames du texte. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'impensés, il n'y en a pas plus à cette époque-là qu'aujourd'hui, sont simplement différents, que la question de la structure familiale est une question qui ne se pose pas. Et déjà, le fait qu'elle ne se pose pas est en soi un signe. Donc, je vais commencer par la position de Robert Filmer, dont je vous avais dit la semaine dernière que c'était un éminent défenseur de la royauté, de la dynastie des Stuarts, et qui va assumer de façon extrêmement forte son penchant monarchiste à travers un texte dont le titre est assez évocateur, De Patriarcha. De Patriarcha, hein, du patriarche, ou des patriarches plus précisément, qui fait l'apologie d'un régime politique où le roi se trouve compris comme la figure du patriarche dans les textes sacrés. Je vais donc vous citer et commenter, alors ça n'est évidemment pas la peine de recopier les citations parce qu'elles sont un peu longues, éventuellement ce que je pourrais faire puisque je les ai sur ordinateur, je vous les transmettrai, je te les transmettrai Françoise, pour, si c'est possible, ça peut être utile pour les relire. Donc deux citations, une que j'extrais du chapitre 6 et une que j'extrais du chapitre 7. Voilà, je lis et ensuite je commente. Nous trouvons dans le décalogue que la loi qui enjoint l'obéissance au roi est exprimée dans la formule « Honore ton père », comme si toute puissance résidait originellement dans le père. Deuxième citation. Si nous comparons les devoirs naturels d'un père avec ceux d'un roi, nous constatons qu'ils sont tout un, sans la moindre différence, à l'exception de leur ampleur ou de leur étendue. Comme le père vis-à-vis d'une seule famille, de même le roi, comme père vis-à-vis d'une multiplicité de familles, élargit ses soins de manière à préserver, nourrir, vêtir, instruire et défendre la République entière. Ses guerres, sa paix, ses cours de justice et tous ses actes de souveraineté tendent uniquement à préserver et à distribuer à chaque père subordonné, je souligne, et inférieur, je souligne, ainsi qu'à ses enfants, leurs droits et leurs privilèges, si bien que les devoirs d'un roi se résument en un soin paternel, universel, envers son peuple. Alors évidemment, si j'ai choisi ces deux citations, c'est qu'elles me semblaient à la fois révélatrices, hein, de la position de Filmer, et qu'elles vont me permettre de poser certains enjeux de la question qui est la mienne. Alors vous remarquerez que dans ces citations que j'ai choisies, Filmer insiste sur la continuité entre, d'un côté, le pouvoir politique du monarque et, de l'autre, le pouvoir paternel du père. Continuité, puisqu'il y a, je ne vais pas relire la citation, identité de puissance et de pouvoir. D'un côté, du roi sur ses sujets, sur les pères inférieurs, hein, c'est une expression qui est employée, et de l'autre côté, des pères sur ceux qui leur sont inférieure, à savoir, la question n'est même pas évoquée, et j'ai relu le De Patriarcha en entier, à aucun moment, la question même de la femme est posée, alors évidemment, on imagine ce que cela veut dire. Deuxième remarque que l'on peut faire à partir de cette citation, qui me semble tout à fait intéressante, cela veut donc dire que le pouvoir politique d'un côté, le pouvoir paternel de l'autre, sont de même nature. La seule chose qui les différencie, c'est l'étendue, comme il le dit, c'est le degré Mais il n'y a pas de distinction à faire entre la politique et la famille. Ce qui, évidemment, conduit à la troisième remarque, que la société politique est une grande famille. Et qu'on a donc ici les prémices d'une représentation communautaire de la société. La société est une vaste famille dans laquelle on peut s'étreindre joyeusement. Alors, remarque suivante, comme vous l'avez constaté, la référence à Dieu est constante. Et j'aurais pu multiplier ici les citations pour vous montrer que Dieu est partout. Dieu est partout. On se rapporte aux Écritures saintes, on se rapporte à la Révélation. Ce qui veut donc dire que dans le cas du Père, comme dans le cas du monarque, la source de légitimité, c'est Dieu. Donc, Filmer, dans une forme de rhétorique habile, mélange deux types d'arguments. Un argument théologique, qui consiste à dire, et c'est classique à son époque, hein, c'est pas du tout original, le roi détient son pouvoir de Dieu. Et il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Mais derrière cet argument théologique, relativement simple, se niche un argument naturaliste également, qui consiste à dire que Dieu est derrière la nature. Et que, d'une certaine façon, le premier octroi de la puissance, lorsque Dieu donne la prérogative au premier homme, hein, voilà la première transmission de la puissance, hein, de Dieu au premier homme, eh bien va se transmettre de génération en génération. Ce qui veut donc dire que la puissance paternelle, tout comme la puissance politique, elle est le fait d'un héritage, et d'un héritage qui est porté par la filiation. Autrement dit, l'argument théologique ici, il se double d'un argument implicite qui est un argument naturaliste. Ce qui veut donc dire, remarque suivante, que la société est évidemment une vaste communauté, et elle est une vaste communauté en ceci précisément, qu'elle répond au dessein de la nature. Autrement dit, le point de vue ici, qui est développé par Filmer, est un point de vue qui est à la fois conservateur, il s'agit de préserver les intérêts de la royauté dont vous savez pertinemment qu'à cette époque-là, elle est significativement menacée, au moins par les prétentions du Parlement. Et deuxièmement, elle est communautaire et conservatrice, cette conception, parce qu'elle met au premier plan de la justification une nature. Il n'y a pas de distinction entre la famille, le lien du sang, et la société. Alors même si le lien social est un lien sanguin plus élargi, plus complexe, il n'en demeure pas moins vrai qu'en principe, nous avons affaire à la même réalité. Et cette réalité est de type communautaire. Alors, je précise au passage que cet argument d'une conception communautaire de la famille ou de la société a fait un tabac dans les pays anglo-saxons outre-Atlantique dans les années 80-90. C'est pas si vieux. Si j'évoque cette thèse qui date du milieu du XVIIe siècle, c'est pas tout à fait par hasard, c'est parce que d'une certaine façon, elle trouve encore aujourd'hui une sorte d'actualité dans certains types d'arguments, notamment naturalistes, qui sont mobilisés pour défendre la famille, hein, la famille avec un grand F. Donc, remarque suivante, je voudrais revenir un instant ici sur la manière dont Filmer a convoqué Dieu, hein, pour poser le dessein. Il dit notamment cette phrase, et John Locke se fera absolument aucun scrupule de le redresser sur ce point. Il évoque dans la citation, comme je l'ai indiqué, hein, la fameuse parole « Tu honoreras ton père ». Sauf que la citation exacte, ça n'est pas « honore ton père », mais c'est « honore ton père et ta mère ». Ce qui est quand même intéressant, puisque on a là une élision, une troncature absolument tendancieuse de la citation, mais qui, me semble-t-il, en dit parfaitement long sur la conception qui prévaut, hein, et sur l'éviction, hein, le silence absolument significatif de la proposition et de la position royaliste à l'égard des femmes. Alors, certes, vous allez me dire que la dernière représentante de la dynastie des Tudors était une femme, certes, mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. En tout cas, il est sûr que du point de vue du modèle théorique et politique, la filiation, elle concerne essentiellement Dieu et les hommes, c'est-à-dire les hommes de sexe masculin. Donc, pour me résumer là-dessus, je peux dire qu'il ressort de ces considérations que la famille est du côté de la nature. Et que non seulement la famille est du côté de la nature, mais la société aussi se trouve du côté de la nature. Et que donc, ce que fait la nature, c'est Dieu qui le veut. Et donc, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à contester. Cette naturalisation a pour conséquence, hein, de délégitimer, a priori, toute forme de contestation. Alors, je voudrais ici quand même préciser un peu le sens de mon propos, parce qu'il est assez important. Il est polémique, évidemment. Et vous allez voir que Locke est beaucoup plus subtil de ce point de vue-là. Et on a bien ici les deux extrêmes, les deux pôles à partir desquels vont se poser, tout au long de l'histoire du libéralisme, cette question du rapport entre la famille et la société. Dire que la société, tout comme la famille, sont du côté de la nature, ça veut dire que les inégalités que l'on peut constater, observer, sont absolument indépassables. Et elles sont indépassables pour quelles raisons? Parce qu'elles sont naturelles. C'est l'arbitraire de la nature. Mais que voulez-vous que nous y fassions? Dieu l'a ainsi voulu, sous-entendu la nature également. Et donc, cette puissance de la nature est une force de légitimité qui interdit toute forme de transformation. Et l'argument royaliste de cette époque, en tout cas tel qu'il est revendiqué ici par ce genre d'auteur, est un argument conservateur au sens étymologique du terme. Ce qu'il s'agit de dire et ce qu'il s'agit de faire, c'est de conserver ce qui existe et ce qui existe en l'état. Parce que la nature se conserve et si elle se transforme, c'est la nature qui le fait. Donc il y a une sorte de disqualification de toute forme d'action, hein, possible, pensable, en vue de cette transformation. Donc, vous voyez bien ici que le naturalisme, qui s'adosse à une représentation théocentrée, hein, c'est Dieu qui est au centre, ce naturalisme, eh bien, il n'est pas neutre politiquement. La nature n'est pas neutre, elle n'est jamais neutre. Et c'est bien là qu'il faut être vigilant. Alors, de là, on peut tirer un certain nombre de conséquences, quelques-unes, j'en évoquerai deux, et je passerai à Locke ensuite. La première des conséquences qu'on peut tirer, c'est que, évidemment, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Hein, que la chose soit bien claire. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. J'irais même jusqu'à dire que la question même ne se pose pas. Elle ne se pose pas, vous avez vu, à partir de l'exemple de la citation, jusqu'où cette absence de questionnement peut aller. Deuxième point, et ça c'est une précision que je donne parce que les citations que j'ai indiquées ne permettaient pas de le comprendre, ce pouvoir du père sur ses enfants et sur sa femme est un pouvoir absolu. Hein? Donc il faut bien comprendre ici, et c'est pour ça que l'analogie qui est faite entre le pouvoir du monarque et le pouvoir du père, a une fonction politique extrêmement importante, puisque le père, tout comme le monarque, a un droit de vie et de mort sur ses enfants. Donc, l'analogie qui consiste à indiquer que les deux sont pareils, le pouvoir du monarque et le pouvoir du roi, eh bien conduit à ce genre de conséquences. Donc, on est là dans une conception radicale, extrême, hein, mais où on voit bien que la manière de comprendre, et c'est ça absolument qu'il faut avoir à l'esprit, la manière de comprendre comment est posé le problème du pouvoir politique et du pouvoir paternel permet implicitement de dessiner une ligne et de comprendre quel est le statut à l'intérieur de la famille, comme dans la société, évidemment, des rapports entre les sexes. Eh bien, chez Filmer, tout comme la société, ou le royaume, ou le peuple, la société de famille, la famille des familles, est foncièrement, naturellement et théologiquement inégale, évidemment dans la famille, entre les êtres humains, entre les enfants, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas d'égalité qui tienne. Voilà ce que j'avais à vous dire très rapidement, trop rapidement. Je conçois que la chose soit un petit peu sommaire, mais il me semble quand même que malgré tout, ce que j'ai dit là suffit à vous aider à comprendre cette caractéristique un peu conservatrice, communautariste, naturaliste du rapport entre la famille et la société, qui est un terme qui va être décliné de façon plus ou moins modulée dans les idéologies ou dans les doctrines contemporaines. Encore une fois, si je me permets de faire ce détour par l'histoire, c'est bien évidemment qu'il y a un rapport avec le réel. Alors, j'en viens maintenant, pour terminer mon propos d'aujourd'hui, je vais m'arrêter un petit peu sur John Locke et peut-être faire un peu plus de considération, disons, évoquer un certain nombre de points pour montrer à quel point Locke est ambigu. Autant Filmer n'est pas du tout ambigu, on y va. Locke, c'est quand même un des précurseurs, comme on dit, du libéralisme, et il a une pensée beaucoup plus subtile. Et c'est cette subtilité ambiguë que j'aimerais ici restituer à votre sagacité. Il me semble qu'il y a deux points importants qu'il faut retenir pour bien comprendre la position de John Locke. Donc je rappelle juste, pour bien le recontextualiser, John Locke publie en 1689, c'est l'année de la Glorieuse Révolution, son second traité sur le gouvernement civil, qui est le texte qui va conduire sa postérité. Même si à côté il y a d'autres textes très importants qu'il publie, le texte pour lequel il est connu, c'est d'abord le second traité sur le gouvernement civil. Et quel est l'objectif démonstratif de ce texte? Eh bien, c'est de démontrer, non, la société politique n'est pas une communauté. Non, la société politique n'est pas naturelle. La société politique est construite. Elle est un artifice qui résulte de la volonté des hommes. Autrement dit, c'est parce que les hommes contractent, harmonisent leur volonté, qu'ils vivent en société politique. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans le détail de ce raisonnement, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Évidemment, on peut tout à fait objecter à Locke qu'il se trompe, qu'il n'y a jamais eu de contrat, que les hommes qui vivent dans une société, eh bien, ils n'ont jamais signé de contrat pour dire qu'ils acceptaient de vivre dans la société. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous vous représentez la société comme étant artificielle, vous la soumettez au regard critique, vous la soumettez à la possibilité de la transformation. Autrement dit, vous l'inscrivez non plus dans la nature et dans l'immobilité, mais vous la placez dans l'histoire et la transformation. Et si la société relève de l'histoire, alors peut-être on peut penser que d'une manière ou d'une autre, certaines inégalités réelles, et que Locke ne conteste absolument pas, peuvent être réduites, changées, déplacées, éventuellement annulées. Donc, il y a ici un changement qualitatif extraordinairement important, qui fait que la société est de l'ordre de l'artifice, et que sa condition première, c'est que les individus soient égaux pour pouvoir justement contracter. C'est l'axiome d'égalité. Nous y voilà. Seulement, cette ce progrès considérable, ce progrès politiquement considérable, s'accompagne d'un certain nombre de conséquences sur la définition de la famille qui, elles, sont plus ambiguës. Et il y a deux discours chez Locke sur la famille. Il y a un premier discours qui est extrêmement moderne, progressiste. Et ce discours, vous le trouvez, pour ceux que ça intéresse, dans le chapitre 6 et 7 du second traité sur le gouvernement. Et dans ces chapitres, Locke nous explique ce qu'il appelle la société conjugale. Qu'est-ce que c'est que la société conjugale ? Et qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale ? C'est-à-dire que Locke, à la différence de Filmer, ne parle pas de l'autorité paternelle, il ne parle pas de l'autorité maternelle, il parle de l'autorité parentale. Alors, je ne voudrais pas ici céder à la facilité, mais quand on sait comment le droit, combien de temps le droit a mis pour reconnaître sur le plan juridique l'entité autorité parentale, eh bien vous voyez à quel point ici Locke est extrêmement en avance. Et les Anglais sont étonnants pour ça. Il y a vraiment, dans la pensée politique anglaise du XVIIe et du XVIIIe siècle, des éclairs de génie, d'anticipation qui sont remarquables. Donc ici, Locke parle de l'autorité parentale. Alors, je vais préciser un petit peu ce qu'il entend par société conjugale et autorité parentale. Et ça, c'est le versant positif, en quelque sorte, de sa théorie. Et puis ensuite, il y a un versant plus ambigu. Je ne dirais pas négatif, mais qui laisse la place à des reformulations beaucoup plus conservatrices. Qu'est-ce que c'est que la société conjugale ? Eh bien, il nous dit, la société conjugale, c'est la rencontre entre deux volontés. La volonté d'une femme et la volonté d'un homme qui s'unissent. Autrement dit, au moment de constituer la famille, il y a égalité radicale entre l'homme et la femme, qui, et c'est très intéressant de le lire, je ne vais pas ici vous embêter avec ces citations, mais qui contracte exactement sur le modèle du contrat, entre guillemets, commercial. C'est-à-dire que la femme et l'homme échangent et expriment leur volonté réciproque. Et ce moment d'expression est un moment d'égalité. Ça se passe dans la société civile. On est donc encore à la limite entre l'espace de la société civile et l'espace privé. Mais, aussitôt, dans les développements qui correspondent à ce point, Locke ajoute, mais la finalité de la famille, qu'est-ce que c'est ? La reproduction. Et donc, évidemment, une fois que la femme a consenti, et qu'elle est dans un contexte d'égalité, et qu'elle a exprimé sa volonté d'union, elle devient mère. Et évidemment, dans ce passage du statut de femme à statut de mère, se passe tout un ensemble de conséquences. Et là, pour le coup, le raisonnement de Locke est beaucoup moins net. J'y reviendrai dans un instant. Deuxième plan, l'autorité paternelle. L'autorité parentale. Alors là aussi, le raisonnement de Locke est extraordinairement moderne. Puisque Locke, qui bataille contre ce vieux réactionnaire de Filmer, dit, mais vous dites n'importe quoi. C'est absolument pas vrai que le père a un pouvoir définitif et absolu sur ses enfants. Parce que la finalité de l'éducation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accès à l'autonomie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que éduquer, c'est aider au développement de la raison. En tant que la raison, et là on est presque dans le siècle des Lumières, en tant que la raison est ce qui va permettre d'orienter la volonté de chacun. Autrement dit, la finalité de l'éducation, ça n'est pas la dépendance définitive, la soumission définitive, l'infériorité naturelle, c'est l'accès à l'autonomie. C'est l'émancipation, c'est la séparation d'avec les parents. Et vous avez tout un ensemble de développements extraordinairement intéressants sur cette question de l'éducation. En tant que l'éducation, c'est véritablement provisoire, momentané, et qu'il n'y a absolument aucun pouvoir définitif et absolu. Que le seul pouvoir, c'est d'utiliser la force affective et l'autorité pour conduire l'enfant à l'autonomie. Donc on est là vraiment loin d'un schéma qui est celui supposé par Filmer, et on peut tout à fait imaginer comment une problématique féministe pourra reprendre cette question de l'éducation, mais cette fois-ci en y intégrant vraiment la question du genre. Voilà donc ici les deux aspects extrêmement positifs ou constructifs ou qui anticipent, pour le coup, de manière extrêmement intéressante, ce que pourrait être une conception libérale de la famille. Cependant, Locke n'est pas aussi net, puisque, à côté de ces considérations très positives, il en est d'autres beaucoup moins évidentes. Parce que Locke est un témoin de son temps, hein, et qu'il est aussi un fin observateur. Il a, bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup en Europe, qui a rencontré hein, toutes les élites intellectuelles de son temps, en tout cas celles qui siégeaient dans les provinces unies, qui siégeaient en France, et c'est quelqu'un qui a une implication politique extrêmement importante dans les événements qui vont conduire à l'installation de la dynastie de Guillaume d'Orange sur le trône. Et à l'éviction donc, hein, puisque c'est ça hein, la question, l'enjeu de la révolution à cette époque-là, à l'éviction de Jacques II, hein, le fils de Charles Ier. Dynastie des Stuarts. Donc, l'autre versant, c'est de dire, certes, il y a égalité. Certes, au moment de contracter, nous avons l'expression de deux volontés égales. Certes, l'autorité de l'éducation repose également sur le père et sur la mère, puisqu'on va parler d'une autorité parentale. Et là, sur ce point, toutes les propositions sont extrêmement explicites et sans aucune ambiguïté. Mais, en même temps, nous dit-il, lorsque la femme devient mère, eh bien, la place qu'elle va occuper dans la famille est tributaire des traditions, des coutumes, des usages, des mœurs et des habitudes. Or, évidemment, ce qui frappe au premier regard, quelle que soit la société considérée, et je ne parlerai pas des nouveaux pays que l'on découvre, mais dans les sociétés de l'Europe, eh bien, l'habitude, l'histoire, la coutume, renforcée par le discours de la religion, infériorise, une fois de plus, le statut de la femme devenue mère. Donc si, en principe, Locke admet, reconnaît l'égalité au moment de la constitution de la famille entre l'homme et la femme, il laisse planer une incertitude sur ce qu'est le statut de la femme dans la famille une fois constituée la descendance, une fois devenue mère. Et cette ambivalence nous laisse penser un certain nombre de théoriciens du féminisme, que Locke considère que la famille se situe à mi-chemin entre l'artifice de la société et la nature, vraiment nature. Autrement dit, si la famille n'est pas complètement du côté de la nature parce que son mode de constitution relève du contrat, de l'expression artificielle d'une volonté qui émane de l'homme et de la femme, il n'en demeure pas moins vrai que la famille, une fois constituée, est en quelque sorte aspirée du côté de la nature, hein, et qu'elle est travaillée par des résidus communautaires où l'inégalité entre les hommes et les femmes, à défaut d'être légitime, existe. Et la force de la tradition les conserve. Donc, ce discours qui se situe entre, si vous voulez, la nature et l'histoire est très précisément porteur d'ambivalence qu'on va retrouver ensuite ultérieurement entre les libéraux et les conservateurs. Et ça n'est pas du tout surprenant de constater que vous avez des théoriciens ou des hommes politiques libéraux qui s'accommodent fort bien des inégalités à l'intérieur de la famille, tout en revendiquant de façon extrêmement légitime l'égalité des sexes dans la société. Or, tout l'intérêt des problématiques féministes, et c'est évidemment ce que j'essaierai de vous montrer à partir de la semaine prochaine, puisque là nous allons pouvoir maintenant aborder le problème de façon plus contemporaine, tout l'intérêt de ces problématiques, c'est justement de nous faire comprendre qu'on ne peut pas tolérer, ou on ne peut pas simplement accepter de revendiquer l'égalité d'un côté et s'accommoder avec l'inégalité de l'autre, parce que tout simplement, l'un conduit à l'autre. Il y a une sorte de principe de vase communicant qui fait que si l'on veut véritablement poser dans toute son effectivité l'égalité entre les sexes, alors il faut poser, comme dit Suzanne Monnard-Hawkin, le problème de l'égalité et de la justice dans la famille. Je vous remercie.